le journal télé Tipelamondo.
Catastrophe ferroviaire des Katenge au Kasai occidental. Pendant que la situation humanitaire se détériore sur le terrain, on annonce l'arrivée des fusillés à la Kananga du secours dépêché par le gouvernement. Le gouvernement qui vient de décréter 3 jours de deuil national en mémoire des victimes de cet accident. À Kinshasa, le procès des présumés assassins du sujet belge abattu jeudi au camp du GB a débuté le même jour. Dans ce journal, vous suivrez ce qui s'est passé au cours de l'audience d'hier. Au Congo-Brazzaville, fin de la campagne du second tour des législatives, l'édition d'une nouvelle carte d'électeur par le gouvernement pour lutter contre la pagaille du premier tour n'arrange pas l'opposition et la société civile. Mesdames, Messieurs, bonjour. En rapport avec l'accident du train de la SNCC à Kakenge, au Kasai occidental, sachez que les premiers secours apportés par la délégation gouvernementale sont arrivés depuis hier après-midi à Kananga. Un hélicoptère de la MONUC doit en principe acheminer cette aide ce samedi matin aux victimes de l'accident. Entre-temps, sur place à Kakenge, on apprend que la situation humanitaire se détériore. Les rescapés manquent de nourriture et l'hôpital de Kakenge est débordé. Les points avec vous, Pierrot et Lamiche.
Le nouveau bilan fait état de 87 morts d'après les sources des ONG humanitaires qui travaillent sur le terrain. Les sources hospitalières indiquent 24 blessés arrivés vendredi à l'hôpital général de référence de Kakenge. Ils se sont ainsi ajoutés aux 44 qui étaient déjà hospitalisés. Les ONG humanitaires ajoutent que ceux des blessés qui hésitaient à se rendre à l'hôpital par manque de possibilités s'y sont finalement rendus, stimulés par l'arrivée de la délégation des agences humanitaires. À Kakenge, la Croix-Rouge et les villageois de la localité s'emploient comme ils peuvent pour enterrer les morts. Les locaux poursuivent aussi leurs efforts pour sortir des corps visiblement coincés entre les wagons et les conteneurs. Sur place à Kakenge, il manque de nourriture pour les rescapés et les travailleurs. Une lueur d'espoir apparaîtra ce matin à l'arrivée de la délégation du ministère de l'Intérieur, de la Santé, du Transport et des Affaires Humanitaires. Jean-Claude Muyambo, ministre des Affaires Humanitaires, que Radio Okapi a rencontré à Kananga, a indiqué qu'en plus de 5 tonnes de médicaments et matériel de soins, un wagon chargé de nourriture sera tracté ce matin en faveur des victimes de l'accident. De Kananga, Piro Ilameji, Radio Okapi.
En mémoire des victimes de cet accident ferroviaire, sachez que le gouvernement vient de décréter 3 jours de deuil national allant de ce samedi 4 au lundi 6 août 2007. Au Kasaï oriental, le ministère de la Santé publique vient de mettre en place un nouveau cadre normatif dans la récolte de données sanitaires en province. Pour mieux maîtriser ce nouveau système, un atelier de 5 jours a été organisé en Mbujimayi, réunissant tous les districts sanitaires de la province. Objectif, adapter des outils du système d'information sanitaire aux spécificités du Kasaï oriental. Emmanuel Elamige.
Le système d'information sanitaire n'est pas adapté aux spécificités de la province. C'est le constat établi par Gisèle Mawazo du Bureau du Système National d'Information Sanitaire au ministère de la Santé. Il se pose toujours un problème en termes de la récolte des données en cas d'épidémie, d'où l'intérêt de ces travaux qui ont réuni 51 participants venus de toute la province. Il s'agit notamment des cadres de l'inspection provinciale de la santé, médecins responsables des différents programmes, médecins chefs des zones de santé, des partenaires de la RDC amateur de santé. L'objectif poursuivi est l'intégration des particularités provinciales dans le nouveau cadre normatif national. Docteur Hilaire Ouvoya, chef du bureau de soins de santé primaire au Kasaï oriental, déclare que ce système permettra d'atteindre le maximum et la fiabilité d'informations sanitaires dans l'élaboration des statistiques des maladies. Les données recueillies seront établies du centre de santé jusqu'à l'inspection médicale en passant par les zones de santé et l'hôpital général de référence. Ce nouvel outil de collecte des données est informatisé depuis la base. Le Kasaï oriental est la 5e province à bénéficier de cet outil après Kinshasa, Nord Kivu, Bandundu et Bakongo. Emmanuel Elamijwa Kabedi, Mbujimayi, Radio Okapi.
En province de l'Équateur, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS, s'engage à réhabiliter dans un plus bref délai les grands laboratoires de Mbandaka. La nouvelle a été annoncée par les coordonnateurs du PNMLS en mission à l'Équateur. Ces laboratoires qui effectuaient jadis des tests pour différents pays d'Afrique ne fonctionnent plus normalement depuis plusieurs années. Selon le numéro 1 du PNMLS, une fois réhabilités, ces laboratoires deviendraient les centres à partir duquel les sang seraient testés avant les transfusions sanguines pour éviter la propagation du VIH. Jean Lambert Manjo est au micro de Paul Richard Malengela.
Les autres actions qui seront menées d'ici septembre, des micro-projets, des sous-projets seront financés pour qu'effectivement le travail démarre. C'est pourquoi nous appelons les organisations qui sont sur le terrain de tous bords d'apporter des projets concrets. Très souvent, les gens ont confondu la lutte contre le sida à la recherche de l'argent. Donc, c'est pour qu'on allait être dans la tête. Si nous voulons aider notre communauté, pour faire des projets, on vous donne des ressources et vous attaquez au travail tel qu'il est fait. Donc ça, c'est quelque chose qui sera fait. Je parlais de la réhabilitation des centres de transfusion sanguine et sa mise en œuvre. Je parlais de l'appui qui sera accordé aux zones de santé de la province de l'Équateur, qui sont appuyées par le projet PARS. Il y a un volet important de sécurité transfusionnelle. On va mettre des réactifs de poches de sang dans les différentes structures de santé de la province.
Selon M. Manjo, les travaux de réhabilitation du laboratoire de Mbandaka doivent débuter d'ici le mois d'octobre. À Kinshasa, depuis jeudi du procès des présumés assassins du sujet belge abattu le même jour au quartier GB dans la commune d'Engaliema, le tribunal militaire garnison d'Engaliema organise ce procès en flagrance. Il siège pour la circonstance au camp Kokolo. Babel Mpongo Massimango nous donne l'essentiel de la séance d'hier.
7 personnes sont sur les bancs des accusés. Parmi elles, 2 membres du gang qui a opéré chez Hans Michel. La séance de ce jour était essentiellement consacrée à la poursuite de l'identification des prévenus, à l'instruction du dossier et à l'audition des témoins. Parmi les témoins entendus ce jour, le jardinier, la sentinelle et la compagne du disparu, mais aussi le lieutenant qui a découvert l'arme du crime. Pour le ministère public, il ne fait aucun doute, toutes les personnes arrêtées sont impliquées de près ou de loin à cet assassinat. Du côté de la défense, on estime qu'il y a plusieurs innocents parmi les prévenus. Toutefois, selon l'un des avocats, le collectif des avocats de la défense prévoit de plaider coupable pour Kongolo et Tamba, tous deux ont reconnu appartenir à la bande qui a opéré chez Hans Michel, mais ont déclaré être restés en dehors de la parcelle pour faire le guet. Il faut noter que 3 membres de ce gang sont en fuite. Il s'agit de ceux-là même qui ont abattu le sujet belge.
Babel Mpongo Massimango, le procès doit se poursuivre ce samedi avec les réquisitoires du ministère public et la plaidoirie et des avocats. L'un des 3 journalistes de la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, arrêté le 26 juillet dernier, a été libéré mardi après 5 jours de détention. Et jeune Rissassi Ntamboué, c'est son nom. La nouvelle de sa libération a été donnée jeudi par l'ONG journaliste en danger, GED. Et jeune Rissassi Ntamboué, Vincent Atta, Michel Chango et une 4e personne non identifiée comme journaliste avaient été arrêtés dans les installations de la radio-télévision nationale par des éléments de la garde républicaine commis à la surveillance du site. Ils ont été accusés notamment d'injures publiques et outrages contre le chef de l'État, des tentatives de déstabiliser la RTNC et de discréditer le gouvernement par les déclenchements d'une grève. Au Maniema, vive tension entre la population et les éléments FARDC à Kabambare, chef-lieu du territoire du même nom situé à 430 km sud-est de Kindu. Pas de communication depuis le 22 juillet, la radio communautaire Tujenge Kabambare et toutes les phonies sont fermées. Certains habitants de la cité seraient encore en brousse depuis que les militaires ont sauvagement battu un homme de 27 ans pour une affaire des travaux collectifs dits Salongo. Les récits des faits avec vous, Rigobert Yumandouani.
Tout a commencé par l'arrestation et les mauvais traitements infligés à un homme par des militaires réquisitionnés par le chef de la cité de Kabambare. La victime n'avait pas participé aux travaux collectifs décidés par le responsable de cette cité. Et pour ça, il a été violemment battu. Sa famille, qui n'a pas digéré ces faits, s'est déchaînée contre le chef de la cité et l'a molesté à son tour. C'est ce qu'explique ce rescapé, Ramazani Kapita, journaliste de la radio Tujenge Kabambare, qui lui s'est enfui à Kasongo.
Les militaires ont été autorisés par le chef de cité, Olivier Saïd Paouni. Ils ont demandé au garçon Kitambo Nyembo le jeton pour attester s'il avait participé au Salongo, mais il n'en avait pas car il venait de débarquer à Kabambare. Du coup, ces militaires ont commencé à le tabasser et à l'acheminer par après au cachot. Sa famille informée à 10 km est venue le lendemain le libérer du cachot pour l'amener au domicile du chef de cité qui s'est vu tabasser par les proches de cette victime. C'est ainsi que le capitaine a ordonné aux militaires de tirer en l'air afin de sauver ce chef des mains de ses habitants. La population a pris fuite dans la brousse et le pillage des biens s'en est suivi. Toutes les phonies fermées et la radio communautaire également a été interdite de mettre pour que cette information ne puisse pas être livrée aux autorités. Les autorités FARDC affirment que le chef de la cité a été sauvé de justesse de la colère de la population le 22 juillet dernier. Celui-ci est d'ailleurs toujours soigné dans une clinique militaire de Kindu, Rigobert Yumandouani Walumba, Radio Kapi.
Au sud Kivu, la polémique se poursuit entre l'Assemblée provinciale et la Direction générale des migrations. L'organe délibérant reproche à la DGM des omissions dans la comptabilité des recettes perçues au poste frontalier de la province. De son côté, la DGM réplique que l'Assemblée provinciale se base sur des données qui ne reflètent pas la réalité. Ces bras de fer se jouent autour des ambiguïtés des compétences dans la mise en place de nouvelles institutions décentralisées. Idas Namojimbo.
Selon le chef de la sous-délégation du Haut Commissariat aux réfugiés, Philippe Crapi, 582...
Là on est allé un peu plus vite en besogne à Kalemi, nous retournons à Bukavu. On reviendra dans nos prochaines éditions. parlons cette fois-là les rideaux. Donc, nous allons dans les bandes avec les rideaux qui sont tombés sur la première édition du Festival international des arts contemporains de Kasongo-Lunda. Dans les Bandundu, ce festival a connu un engouement remarquable. Notre envoyé spécial sur place nous parle des milliers de spectateurs venus assister à cette cérémonie initiée par l'Agence culturelle Afrique Patrimoine, Jean-Marc Matwaki.
Selon le chef de la sous-délégation du Haut Commissariat aux réfugiés.
Voilà, on va retrouver Jean-Marc Matwaki dans les Bandundu. Nous parlons des rideaux qui sont tombés sur la première édition du Festival international des arts contemporains de Kasongo-Lunda. Ce festival a connu un engouement remarquable. Notre envoyé spécial sur place, Jean-Marc Matwaki, donc, nous parle des milliers de spectateurs venus assister à cette cérémonie initiée par l'Agence culturelle Afrique Patrimoine.
Plus de 10 000 spectateurs ont pris part durant 5 jours à une vingtaine de spectacles de musique, danse, conte, théâtre et marionnettes organisés à travers les territoires de Kasongo-Lunda, à 500 km de la ville de Kinshasa. Le Festival international des arts contemporains de Kasongo-Lunda a accueilli des artistes et groupes venant de la Belgique, de la Roumanie, du Congo-Brazzaville, de Kinshasa et des villages environnants. Parmi les invités, on a noté également durant les 5 jours du festival la présence du ministre des Mines, de la Culture, de la Jeunesse et Sports et Loisirs du gouvernement provincial de Bandundu. Initié par l'Agence culturelle Afrique Patrimoine, la première édition du Festival international des arts contemporains de Kasongo-Lunda est venue poser les jalons du développement de ce territoire, la province de Bandundu. À l'issue de la cérémonie de clôture, les artistes invités à ce festival ont plaidé pour le maintien de la paix en République démocratique du Congo, tout en invitant les autorités de soutenir des activités culturelles. Depuis Kasongo-Lunda, Jean-Marc Matwaki pour Radio Kapi.
Retournons ensuite Kivu avec cette polémique qui se poursuit entre l'Assemblée provinciale et la Direction générale des migrations. L'organe délibérant reproche à la DGM des omissions dans la comptabilité des recettes perçues au poste frontalier de la province. De son côté, la DGM réplique que l'Assemblée provinciale se base sur des données qui ne reflètent pas la réalité. Ces bras de fer se jouent autour des ambiguïtés et des compétences dans la mise en place des nouvelles institutions décentralisées. Idas Namushimbo.
Les polémiques font suite à la suspension par le gouverneur du directeur provincial de la DGM. Celle-ci conteste la décision et a déposé un document explicatif. On y apprend que la DGM a versé 44 727 dollars dans la caisse du Trésor depuis le début de l'année, une somme qui ne convainc pas l'Assemblée provinciale qui a fait sa propre enquête. Elle arrive à la conclusion que les comptes déclarés par la DGM sont à la baisse. La preuve serait que les taxes d'immigration perçues au seul poste frontière de Rusizi 2, soit 40 000 dollars, s'approche de la somme versée au Trésor sur l'ensemble des 5 portes d'entrée au Sud Kivu. Le directeur de la DGM rétorque que les données de l'Assemblée provinciale sont partielles et ne reflètent pas la réalité. Il précise que les entrées de la DGM ne sont pas destinées seulement au Trésor public, une partie est affectée au fonctionnement des services. À cela s'ajoute une confusion dans les compétences entre les institutions et les services de l'État. Des incertitudes qui devront être clarifiées dans la loi sur la décentralisation. Mais voilà, cette loi n'est pas encore adoptée. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
Au Congo-Brazzaville, fin de la campagne électorale du second tour des élections législatives. Aucun incident majeur n'a été enregistré pendant cette période de 2 semaines. Le gouvernement de Brazzaville a procédé à l'édition d'une nouvelle carte d'électeurs, ce qui a suscité des critiques de l'opposition et des organisations de la société civile. De Brazzaville, une correspondance de Arsène Séverin.
Le PCT, parti du président Denis Sassou Nguesso et ses alliés, ont déjà obtenu 50 des 53 sièges pourvus au premier tour. Les 3 autres reviennent à l'opposition, notamment à l'UPADF de l'ancien président Pascal Issouba. L'enjeu du deuxième tour, il reste 84 sièges à pourvoir demain dimanche pour combler à 137 le nombre des députés du Congo-Brazzaville. Entre-temps, le gouvernement qui organise ces élections a lancé une nouvelle carte d'électeurs pour rompre un peu avec la pagaille du premier tour. Même là, la distribution à Brazzaville est encore timide. Henri Bouka, le président de la Commission nationale électorale, a indiqué que d'autres électeurs trouveront leur carte le dimanche dans les bureaux de vote. Quoi qu'il en soit, les autorités n'ont plus droit à l'erreur après un premier tour chaotique. Arsène Séverin, Brazzaville, Radio Kapi.
Il est très exactement 8h15 à Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.